Malcolm X demeure une figure controversée et relativement minoritaire dans le monde noir américain, de son vivant. Il ne faut pas imaginer que Malcolm X était comparable à Martin Luther King. C'est une figure qui est surtout connue des jeunes, qui est connue dans les très grandes villes américaines, comme Chicago et New York, Detroit, Philadelphie, mais ailleurs, personne n'en a entendu parler. C'est une figure qui, en dépit de son aura et de ses capacités oratoires, reste marginale dans le monde noir américain.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies.
Assalamu alaikum. Malcolm X, Colère noire. Romain Weber, Yvon Croisier. Troisième épisode, l'âge des fausses notes.
Il faut quand même avoir un regard très critique sur le récit qu'il fait de lui-même dans son autobiographie et sur son existence tout court. Il parle d'aveuglement et de surdité à l'endroit de la vie qu'il a vécue lorsque petit délinquant, fréquentant des jeunes femmes blanches, touchant à la fois à la drogue et au proxénétisme. Il a, comme toujours, fait son devenir d'homme avec autant de perdition que de rectitude, comme chacun d'entre nous. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit qu'il a retrouvé la vue et l'ouïe précisément au moment où il la perd.
Sylvie Laurent, historienne.
Alors, il est dans un contexte où il y a sur 7 enfants, je crois qu'ils sont 7 enfants à la maison, il y a essentiellement un frère et une sœur qui tiennent un petit peu la baraque et qui s'assurent que tous les enfants mangent. Et lui, après avoir été placé, se retrouve à New York à un moment où New York est dans l'effervescence de ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance tardive, c'est-à-dire un moment de très grande ébullition artistique et intellectuelle. Et donc, il y a un mélange de vie dans les clubs, les cabarets, Harlem, le jazz, ou une vie interlope, où l'on s'en canaille et où en même temps on pense la révolution. Et donc lui est assez peu politique à cette époque-là, mais il est nourri de cette espèce d'atmosphère de régénération de l'esprit de liberté, de ce petit microcosme dans lequel c'est la bohème. Et donc la bohème, elle est toujours très proche de la délinquance. Et lui, il va franchement, il fait de mauvaises rencontres, qui sont aussi des rencontres de circonstances, et à la fois consommation de stupéfiants, sortie la nuit, beuverie, et puis vol. Un petit acte de délinquance pour lesquels il est arrêté une première fois, une deuxième fois, il prend du sursis et il est condamné au pénitencier. Comme souvent lorsque vous êtes noir et que vous êtes délinquant, le juge charge un peu la barque, donc il prend plusieurs années de prison et l'histoire voudra que c'est là que la renaissance a eu lieu.
Sylvie Laurent, il y a quand même certains moments quand je lis l'autobiographie de Malcolm X ou alors quand je regarde le film de Spike Lee, où je me dis que cette histoire, elle est tragique évidemment, mais elle est aussi un peu trop belle. C'est-à-dire que tout est parfait dans la tragédie, avec une enfance traumatisée, une descente aux enfers, et puis une révélation en prison qui le mène jusqu'à son destin. Vous trouvez pas que parfois il écrit comme un scénario hollywoodien?
Alors, on est très prisonnier de la lecture qu'on a fait Spike Lee. En réalité, Malcolm X est très peu populaire jusqu'à la publication, enfin l'apparition du film de Spike Lee. Hein. Spike Lee, c'est vraiment un moment où on est dans les émeutes de South Central, l'âge d'or du rap.
C'est 92, hein,
on est au début des années 92, hein, donc c'est un moment où la question de la repolitisation des Noirs américains se pose. Donc ce film arrive vraiment, c'est un lieu de mémoire, c'est un objet culturel, c'est un objet politique. Donc l'autobiographie, elle est aussi conçue comme un objet politique. Par ailleurs, oui, en effet, l'autobiographie de Malcolm X, elle appartient à un genre littéraire qui a ses tropes, qui a ses lieux communs, qui est l'autobiographie dans la grande tradition littéraire noire américaine. Je vous parlais de Frederick Douglass. On pourrait dire la même chose de l'autobiographie d'Angela Davis ou de Martin Luther King. L'autobiographie, mais on le sait aussi dans la tradition européenne avec celle de Jean-Jacques Rousseau, etc., c'est un exercice qui vise à rendre la métaphore de sa propre vie suffisamment explicite pour que chacun s'y retrouve.
Did you ever look up the word black in a dictionary?
Tu as déjà cherché le mot noir dans un dictionnaire?
Pourquoi?
Je vais te montrer. Viens avec moi.
Black.
Noir.
Destitute of light.
Dépourvu de lumière.
Devoid of
dépourvu de couleur.
Enveloped in
enveloppé
darkness,
d'obscurité.
Hence, utterly
tout à fait lugubre ou sinistre.
As the future,
exemple, l'avenir semblait noir.
Soiled with dirt,
souillé de crasse.
Foul.
Infect.
Sullen.
Renfrogné.
Hostile.
Hostile. Un noir présage.
As a black
de mauvais augure.
Foully or outrageously
ignoblement ou scandaleusement cruel. D'une noire cruauté.
Indicating disgrace,
indiquant une disgrâce, un déshonneur ou la culpabilité.
And there's others, black men.
Et il y en a d'autres. Marché noir, bête noire, travail au noir. Alors on regarde à blanc. L'île.
White.
Blanc.
Of the color of pure snow.
De la couleur de la neige vierge.
Reflecting all the
reflétant tous les rayons du spectre.
The opposite of black.
Contraire de noir.
Free from spot or blemish.
Vierge intacte, immaculée, pure.
Innocent.
Innocent. Candide.
Harmless.
Dépourvu de mauvaises intentions.
Honest.
Inoffensif, honnête, régulier en affaires, honorable, c'est pas vrai. C'est écrit par des blancs, alors c'est normal, c'est un livre de blancs.
Pape Ndiaye, vous qui êtes historien, qui avez travaillé beaucoup sur les Afro-Américains, sur l'histoire des Noirs américains, il y a un moment très important pour Malcolm X, en tout cas dans son autobiographie, il en fait un moment un peu charnière de sa jeunesse. On est en décembre 41. Il a 16 ans, il vit dans une ville moyenne qui s'appelle Lansing, qui est une ville entre Chicago et Détroit. Et il a une demi-sœur qui s'appelle Ella, qui vit à Boston, et qui lui propose de venir vivre avec elle. Et Malcolm X décrit le moment où il prend le bus, avec quelques détails. C'est un moment très important pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de cette petite ville de campagne à une grande métropole comme Boston ?
Et en effet, le déplacement vers la côte Est, c'est un déplacement important. Malcolm X va quitter le Midwest natal pour s'installer sur la côte Est, même si Boston n'est pas une grande ville noire à cette époque. Il n'empêche que ce déplacement vers la côte Est va être absolument central parce que Malcolm X se rapproche de New York.
Malcolm X, l'autobiographie.
J'ai embarqué à bord d'un bus Greyhound pour Boston. J'ai souvent repensé à ce moment. Dans ma vie, aucun de mes passages à l'acte n'a été plus déterminant ni n'a eu de répercussions plus profondes. Si j'étais resté dans le Michigan, j'aurais sans doute épousé une des filles noires que je connaissais et qui me plaisait. Je serais peut-être devenu cireur de chaussures à la Chambre des députés ou serveur au country club où j'aurais eu un job miteux comme tous les noirs de Lansing qui ont réussi. Si ça se trouve, j'aurais fini menuisier. Je remercie Allah de m'avoir envoyé à Boston à ce moment-là. Sinon, je serais sans doute resté un bon chrétien noir, bien docile.
Ce qu'il découvre, Malcolm X, sur la côte Est, c'est l'existence d'un monde noir qui n'est pas le monde prolétaire seulement, mais il y a aussi une classe moyenne, il y a aussi une élite noire à Boston, une élite intellectuelle, il y a des médecins, il y a des avocats. Il y a également une scène artistique très très vibrante. Et donc il découvre un monde noir que l'on pourrait qualifier de stratifié, pas aussi homogène que dans les petites villes, et qui lui offre aussi des perspectives intellectuelles et culturelles absolument inédites pour ce jeune homme.
À Boston, Freddy, le serreur du Roseland, quittait son poste le soir même. Je pourrais prendre sa place. Brosse, cirage, chiffon à reluire, vernis. Freddy me montrait les ficelles du métier. Certains musiciens passaient aux toilettes pour hommes vers 8 heures pour se faire cirer les chaussures avant de jouer. Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton font partie de ceux qui sont passés sur ma chaise. « Je peux te le dire maintenant », m'a dit Freddy. « Je te conseille d'acheter 2 douzaines de boîtes de capotes à 25 cents pièce. » T'as vu les gars qui sont venus me voir à la fin? Quand ils sont sur le point de conclure avec une nouvelle nana, ils viennent t'en demander. Tu leur vends 1 dollar. En général, ils donnent un pourboire. Des mecs te demanderont de l'alcool, d'autres des joints. Mais ils leur donnent rien avant de savoir repérer les flics. Si tu te débrouilles bien, tu pourras gagner 10 ou 12 dollars par soirée. L'essentiel, c'est que tu te rappelles que dans la vie, tout est une question d'argent. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que Freddy passait moins de temps à cirer des chaussures qu'à vendre de l'alcool et des joints. Et à mettre des michetons blancs en contact avec des putes noires.
Pape Ndiaye, comment est-ce que vous arriveriez à décrire le tabou qui existe à ce moment-là sur les relations amoureuses et sexuelles entre les Noirs et les Blancs ?
Et bien sûr que cette question-là est une question absolument centrale qui vaut d'ailleurs lynchage et qui est punie de mort pour tout homme noir qui aurait l'affront de regarder une femme blanche. Cela vaut la mort. Et il y a eu des affaires de lynchage célèbres, à commencer par le jeune Emmett Till, pour avoir soi-disant regardé une femme blanche. Donc le simple regard peut valoir la mort dans beaucoup de régions des États-Unis, à commencer par le Sud.
28 août 1955, lynchage dans le Mississippi d'Emmett Till, 14 ans, pour avoir regardé une femme blanche.
Néanmoins, ce que Malcolm X découvre dans ces grandes villes de la côte Est, c'est quand même des relations moins violentes entre noirs et blancs, moins marquées du fer rouge de la ségrégation et du lynchage. Il n'y a pas de lynchage en tant que tel à Boston. On peut parler à une personne blanche sans risquer la mort, ce qui est en soi un événement considérable, sans même parler des relations amoureuses. Donc c'est cela que Malcolm X découvre. Donc c'est une liberté, au fond, qu'il découvre à Boston, y compris dans ce qu'on appelle les black and tan, donc les clubs de musique où les noirs et les blancs se mélangent. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'inédit pour lui.
Alors, il découvre une liberté, mais il sort lui-même avec une jeune femme blanche, mais il se rend compte quand même très rapidement que c'est une relation extrêmement déséquilibrée et que cette jeune femme blanche trouve chez lui une sorte de fétiche du bad boy noir, une espèce d'attirance sexuelle qui est extrêmement due à sa couleur de peau. Et lui, d'ailleurs, quand il est attiré par cette femme blanche, il sait aussi qu'il est attiré par une femme blanche aux cheveux blonds. C'est pas uniquement la liberté qu'il voit dans cette interaction, il voit aussi un rapport de domination.
Dans les relations amoureuses, on voit ce qu'on a envie de voir, au fond. C'est qu'il y ait une forme d'exotisme pour l'un comme pour l'autre, c'est possible, mais il y a pas que ça, il y a autre chose.
Il a une image de la femme à cette époque-là qui est un peu calquée sur celle de son père.
Jonathan Demey, biographe de Malcolm X.
Et son père n'avait pas forcément une attitude toujours parfaite avec les femmes.
Il battait clairement sa femme, père de Malcolm X.
Voilà. Donc on peut imaginer que Malcolm a des rapports très compliqués, surtout qu'encore une fois, il est dans le monde de la nuit, donc il est évidemment dans une situation qui est totalement différente. Et il est encore très jeune, et il a sans doute ce réflexe-là et cette expérience-là. L'une des histoires qu'on connaît le mieux, c'est l'histoire qu'il va avoir avec une jeune Arménienne qui est plus âgée que lui, qui s'appelle Béatrice Karagoulian, qu'il rencontre dans une boîte à Boston et avec lequel il va avoir des rapports sexuels en échange, on va dire, de cadeaux et d'argent. Et pour Malcolm, c'est quand même un moment important parce que le fait de coucher avec une femme blanche qui n'est pas une prostituée, c'est quand même une marque de respectabilité pour lui. Et donc c'est quand même une relation importante, même si on sait que c'est pas forcément les normes du couple classique et qu'il n'était pas forcément un personnage tendre, Donc on peut imaginer que quand ils se parlent, il y a un rapport de violence, d'autorité, que lui, il est en train de faire sa place un peu dans le monde de la nuit, qu'il se sert d'elle comme marque de respectabilité, qu'elle, elle trouve son compte avec ce jeune qui est une sorte de jeune gigolo pour elle, tout simplement, vu qu'elle le paye et elle lui donne des cadeaux. Donc, c'est pas une relation très saine, c'est quand même une relation qui est basée sur l'argent et qui va ensuite déboucher sur la délinquance, vu qu'ils vont participer à des braquages tous les deux.
On est en 1942, début de l'année. Malcolm X a 17 ans. Et après avoir été à Boston, il vient s'installer à Harlem. Qu'est-ce qu'il vient y faire à Harlem ?
Il est totalement subjugué par cette ville. Il avait déjà été très frappé par Boston, par les couples interraciaux dans les rues, par les bars, la taille, la bourgeoisie noire. Il a été très frappé par Boston. Et il découvre à New York le même environnement, mais en plus grand, tout simplement parce que c'est New York et que Harlem est un quartier noir qui le frappe profondément. Professionnellement, il n'est pas du tout installé, il fait beaucoup de petits boulots, il profite de la conjoncture économique qui fait qu'il y a des places vacantes, donc il peut toujours trouver du travail, cireur de chaussures, cuisinier dans les trains. Mais comme il est déjà rentré dans le monde de la nuit, de l'argent, des jeux de cartes et ainsi de suite, il est incapable de tenir un travail et d'être sérieux pendant un certain temps. Donc il se retrouve dans cette grande ville où il y a des opportunités, de l'argent facile, des magouilles à faire. Et où il y a une grosse communauté noire, et ça va être son terrain de jeu d'abord à cette époque-là par la découverte de cette ville, et ensuite ça deviendra sa grande ville à lui quand il sera ministre du Temple à Harlem.
Everybody liked Echoes of Harlem. It was mean and wailing with an uptown beat. We heard the Duke played it and played it ourselves in the famous door. It had that Harlem feeling, mean and railing, that uptown way.
J'ai pris le taxi jusqu'à Harlem. Le New York des Blancs défilait comme un décor de cinéma. Puis brusquement, après avoir dépassé Central Park, au niveau de la 110e, la couleur de peau des piétons a commencé à changer. En 5 minutes, j'avais quitté Boston définitivement. Ce soir-là, j'étais hypnotisé. J'avais trouvé le monde auquel j'appartenais. J'allais devenir l'un des parasites les plus dépravés de New York, qui comptait alors 8 millions d'habitants, dont seulement la moitié exerçait un travail honnête, l'autre vivant à leur crochet. Il m'avait suffi d'une nuit pour devenir complètement accro à cette ville, particulièrement à Harlem. New York, pour moi, était le paradis, et Harlem, le 7e ciel.
Cinq colonnes à la une, septembre 1964.
Harlem, une tache noire au cœur de la ville la plus riche du monde. Ici, il n'y a que des noirs, 300 000, 400 000 peut-être. Ici, un homme sur trois est en chômage. Ici, les enfants meurent 2 fois plus qu'ailleurs. Ici, on tue 6 fois plus que dans le reste de New York. Ici, on consomme 8 fois plus de drogue. Après une courte flambée de colère, Harlem est retombé dans sa stupeur. Pourtant, je n'ai pas reconnu Harlem. Les Blancs ne s'aventurent plus au-delà de la 110e rue. Ils ont peur. Il y a un an, il suffisait de dire « Français » et toutes les portes s'ouvraient. Cette fois-ci, on m'a dit « Français ou pas, tu es blanc et tu pues. »
My mother, she's a tailor.
Harlem, ce n'est pas encore la Casbah, mais c'est déjà un ghetto, le ghetto noir.
Il est assez clair de peau, hein. il faut pas l'oublier.
Qu'est-ce que ça change ?
Ça change pas au sens où il est considéré comme noir et il se considère comme tel. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle des hiérarchies coloristes.
dans les mondes africains, américains, qui font que avoir la peau un peu plus claire, être métisse dans notre langage à nous, c'est en quelque sorte alléger l'impôt de couleur que les Noirs paient. Et donc c'est, je ne dirais pas passé, pour prendre une expression américaine, aux yeux des Blancs, mais c'est néanmoins être placé dans une position un peu supérieure à celui qui a la peau plus foncée. D'ailleurs, les hiérarchies sociales des mondes noirs américains, les élites noires américaines, c'est encore vrai aujourd'hui, ça l'était encore plus à l'époque de Malcolm X, étaient plutôt des élites claires, par opposition au monde populaire qui était des mondes noirs foncés. Donc Malcolm X se situe, je dirais, dans une strate qui n'est pas la strate la plus exposée. Je mets des guillemets, bien entendu, parce que je ne peux pas relativiser la morsure du racisme. Alors oui, je dirais « the lighter, the better », c'est l'idée que, effectivement, la peau plus claire peut passer. Il y a eu longtemps, dans certains lieux un peu prisés, le « brown paper bag test », le test du... Vous savez, ces sacs de papier où on met les courses aux États-Unis qui sont en papier de couleur brune, beige, qui servaient de test à l'entrée de certains clubs. Est-ce qu'on a la peau plus claire ou plus foncée que
vous
le papier?
Il y avait des gens qui arrivaient devant des boîtes et on mettait le sac devant
l'entrée et on regardait si la couleur de peau des entrants était plus clair ou plus foncé que la couleur du sac.
Et alors, à Malcolm X, est-ce qu'il pourrait rentrer?
Alors, lui, il pouvait passer, justement. Non pas comme blanc, il n'était pas suffisamment clair. Il y a des Noirs américains qui sont tellement clairs de peau qu'ils peuvent passer, justement. Ça a fait l'objet, d'ailleurs, de thèmes littéraires importants. Lui, il ne l'était pas à ce point. Dans le langage de la langue française, on l'aurait qualifié de métis.
Un tiers des boxes du Savoy Ballroom était occupé par des Blancs, qui se contentaient de regarder les Noirs danser. Mais certains dansaient ensemble. Et comme à Boston, il y avait quelques femmes blanches avec des Noirs. Le public réclamait la chanson Flying Home, et a fini par l'obtenir. J'ai bien voulu croire l'histoire qu'on m'avait racontée à Boston. Un Noir assis au deuxième balcon se serait littéralement senti pousser des ailes en entendant cette chanson un soir à l'Apollo. Il avait un peu trop fumé. Il s'était lancé, a sauté et s'est cassé la jambe. Earl Hines composerait Second Balcony Jump en mémoire de cet épisode.
Hicham Haïdi, là on est en voiture avec vous, vous êtes au volant. On part du Shabazz Center, qui est donc sur Broadway, avec la 165e, c'est ça, au nord de Harlem. Et on se dirige vers où?
On se dirige vers Hôtel Teresa, au Harlem, ce qu'on appelle le Teresa Hotel.
Autour de nous, dans ce quartier au nord de Harlem, qui est le quartier de l'Eau du Bon, il y a des barbiers, des supermarchés, beaucoup latinos.
Oui, c'est largement hispanophone, le quartier, il y a beaucoup d'églises évangélistes, tu vois, là-bas. Mais ça a changé, c'était largement européen jusqu'à les années 20. Après les années 20, avec la migration, ce qu'on appelle la grande migration des Afro-Américains des États du Sud vers le Nord, les villes, le quartier a changé, c'est devenu le cœur battant, the beating heart, le cœur de la lutte afro-américaine.
Malcolm X, je crois qu'il appelait ça la Casbah de l'Amérique.
Parce qu'il y avait ségrégation, il y avait la pauvreté, c'était des quartiers ségrégés, quoi. Et à Boston, il travaillait dans les trains, les chemins de fer. Donc il a fait la route Boston, New York, Washington plusieurs fois. Et il s'arrêtait ici pour se plonger dans la vie artistique. La vie ici de New York, la vie musicale. C'est ici qu'il a rencontré plusieurs jazzmen. Je peux vous montrer une boîte où il dansait, il chantait.
Elle est à côté, là?
Je vais la Ouais.
Est-ce que là, on est donc croisement ici, 158e?
Où on est maintenant, ça, on se considère Washington Heights.
Okay. Et donc, ce club de jazz, comment il s'appelait là où vous nous emmenez?
Il s'appelait Smalls Paradise. Smalls.
Et qui est-ce qu'il a rencontré là-bas?
Il a rencontré Duke Ellington, il a rencontré Dana Washington, il a rencontré... Alors c'était ses amis, il était toujours dans les clubs de jazz. Il avait une côté dont il s'était impliqué dans la vie, l'économie informelle, soi-disant, quand il était jeune. C'est pour ça qu'il est allé en prison. Je pense qu'il avait... Ils ont fait un braquage dans une bijouterie à Boston. Mais ouais, il était dans sa vie de ce qu'on appelle hustler. Mais Manny Marable dit dans son livre que Malcolm X a toujours exagéré son côté bandit, son côté caillera, si tu veux, pour montrer que tout le monde pouvait se transformer, tout le monde pouvait changer.
Parfois même quand on lit l'autobiographie, on se dit que c'est presque une incitation à devenir bandit.
Pas du tout, c'est le contraire. Pas du tout. C'est l'incitation de devenir quelqu'un discipliné, respecté, respectueux. Non, c'est le contraire.
L'équipement ordinaire, si je puis dire, consistait en un pistolet automatique. Un calibre 25 de couleur bleu acier, si petit et si plat qu'il ne se voyait pas. Pour le travail, je préférais un calibre 32, un 38 ou un 45. J'ai vu des yeux fixer ce grand orifice noir, des visages s'affaisser et des mâchoires se desserrer. Quand je parlais, les gens avaient l'air de m'entendre de très loin. Ils faisaient tout ce que je leur demandais. Entre deux coups, je me droguais pour rester calme. J'étais tellement défoncé que je vivais dans un monde imaginaire. De temps à autre, je fumais de l'opium avec des amis blancs, des comédiens qui habitaient dans le centre. Et j'ai fumé plus de joints que jamais. J'avais dépassé le stade des joints grands comme des allumettes. Je fumais près de 30 grammes par joint. Quelquefois, quand j'y pense, je me demande comment j'ai fait pour rester en vie. On dit que Dieu veille sur les imbéciles et les bébés. J'ai souvent pensé qu'Allah veillait sur moi. Pendant toute cette période de ma vie, j'étais psychiquement mort. Mais je l'ignorais.
Jonathan Demey, il ressemble à quoi physiquement à ce moment-là, Malcolm? Il s'appelle pas encore X.
Ah, il porte des costumes beaucoup trop larges pour lui, parce que c'était la mode à l'époque. Il a les cheveux défrisés. Il se défrise les cheveux parce qu'il veut ressembler à des blancs, donc il...
Okay. Ça, c'est important comme récit dans l'autobiographie. Il insiste énormément dessus. Il y revient plusieurs fois tout au long du livre.
Oui, parce que c'est un marqueur pour quelqu'un qui, après, va faire beaucoup de discours sur la fierté, sur l'importance des valeurs africaines dans l'histoire des Afro-Américains. Il est dans une période où il renie son identité. Il veut plus être noir, tout simplement. Donc, il s'habille vraiment comme c'est la mode. Et ce fameux costume est très mal vu aux États-Unis à cette époque, parce que, justement, c'est un costume de délinquant et de déserteur par rapport à la guerre. Et puis, il se défrise, donc il a les cheveux en arrière et pas du tout afro ou pas du tout crépus. Et il est dans un état aussi, on peut imaginer, un peu compliqué, parce que il se drogue beaucoup, il vit la nuit, donc il est quand même dans une forme physique qui doit quand même être assez contestable.
Je vous ai apporté, Mabula Soumaoro, des dossiers du FBI. Mmh. Et je vous en ai sorti les toutes premières pages. Mmh. Je vous les mets dans les mains. Mmh. Malcolm X Little, part 1 of 24. Peut-être qu'on peut commencer par regarder... cette description de Malcolm X.
Alors, Malcolm Little was Malachi Shabazz, Rhythm Red, Detroit Red et Jack Carlton. Alors, c'est tous ses alias, peut-être. Ouais. Donc, né le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska. Negro mulatto.
Comment est-ce qu'on peut traduire ça ?
Nègre mulâtre, et ça veut dire qu'il a la peau métissée, en tout cas claire. Parce que techniquement, il n'est pas mulâtre, il n'est pas l'enfant d'un noir et d'une blanche, ou d'une blanche et d'un noir. Mais sa mère est originaire de la Caraïbe, de l'île de la Grenade, où, voilà. On a son adresse dans le Michigan, on a sa taille, son poids.
1m92, ouais. 82 kilos.
Ouais, on dit qu'il est fin. Les yeux marrons, des marques et des cicatrices. Donc une cicatrice qui part de l'œil droit et qui s'étend jusqu'au nez. Une cicatrice sur le menton. Une cicatrice sous le coude gauche. Il est avéré qu'il consomme régulièrement de la marijuana. Il est célibataire. Il est de nationalité états-unienne. On a son numéro de sécurité sociale et on a son numéro de dossier.
Il vit la nuit. Qu'est-ce qu'il fait la nuit ?
Il joue aux cartes, il joue aux craps, il joue au poker. Il flambe en fait l'argent qu'il arrive à gagner, soit légalement, soit illégalement. Il couche avec des prostituées. Il met en relation aussi des clients avec des prostituées. Il est visiblement très bon dans ce domaine-là. Il met aussi des hommes en rapport avec d'autres hommes pour des relations homosexuelles. Et c'est là que... On pense, en tout cas certains pensent qu'il aurait couché avec un homme, ce qui est quand même une révélation qui a beaucoup frappé chez les gens qui aiment beaucoup Malcolm X. On n'en est pas vraiment sûr, il aurait couché avec William Paul Lennon, qui est un homme d'affaires blanc. Donc après, possible ou non, il est dans une époque, encore une fois, où il est drogué sévèrement. Il fume de l'herbe, il prend de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines, de l'opium. Il est dans des jeux d'argent, donc on peut imaginer que si cet homme d'affaires a de l'argent, ça aurait pu l'intéresser. En tout cas, s'il l'a fait, c'est pas quelque chose qu'il a renié publiquement, ou qui, en tout cas, ça existe dans l'autobiographie, donc... Encore une fois, il y a une logique quand même de sincérité, alors que c'est tout de même un rapport homosexuel pour un personnage qui sera musulman pratiquant après ça et qui n'était pas homosexuel lui-même. Donc c'est quand même, c'est à la fois anecdotique et en même temps ça montre quelque chose de sa vie de l'époque et de son rapport aussi à la vérité ensuite. Mais en tout cas, oui, il vit la nuit dans ce qui peut être une vie de délinquant dans une grande ville comme New York.
Donc là, on est entre 1944, 1945, c'est ça ? C'est à peu près ça, ces années-là. Est-ce qu'on sait quelle maison il cambriole ?
Au début, c'est dans les quartiers blancs de New York. Et ensuite, ça va se détourner à Boston. Avec une méthode très simple, ils font ça la nuit. Ils sonnent à la maison pour vérifier que la maison est vide. Ils crochettent la porte, ils rentrent et ils prennent argenterie, bijoux, objets de valeur. Et ensuite, Malcolm X va commettre plusieurs erreurs parce qu'il va revendre des montres notamment qu'il aura volées. Et un jour, il emmène une montre chez un réparateur et quand il vient la rechercher, la police l'attend.
C'était une montre très chère, raison pour laquelle je l'avais gardée pour moi. La personne à laquelle je l'avais volée, je l'ai appris plus tard, avait décrit la réparation qu'elle nécessitait. Tous les bijoutiers de Boston avaient été prévenus. Le bijoutier juif a attendu l'argent avant de poser la montre sur le comptoir. Il a donné le signal et un autre type a surgi de l'arrière-boutique. Il avait une main dans sa poche. Je savais que c'était un flic. Il m'a dit calmement « Approche ». Je m'apprêtais à obéir quand un autre noir, innocent, est entré dans le magasin. J'étais là, avec mon arme, pendant que le policier parlait à l'autre noir en me tournant le dos. Encore aujourd'hui, je suis persuadé qu'Allah était à mes côtés, y compris à ce moment-là. Je n'ai pas essayé de tuer le flic. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Je me souviens que le policier s'appelait Slack. J'ai levé le bras et je lui ai fait signe. Tenez, prenez mon arme. Je me rappelle son visage quand il l'a prise. Il était choqué. L'arrivée de l'autre noir avait chassé de ses pensées la possibilité que je sois armé. Il était très ému que je n'aie pas essayé de le descendre.
Quand est-ce qu'il entre en prison, Malcolm X, Jonathan Demey ?
En 1946. Il a pris 8 à 10 ans. Le procès s'est pas forcément bien passé puisque Béatrice et les femmes qui font partie du groupe ont clairement chargé Malcolm X en expliquant que c'était lui le patron du groupe. Donc il se retrouve à être en prison alors qu'il n'est pas vraiment éduqué. En tout cas, il a quitté l'école très tôt. C'est un personnage qui est drogué. Et donc on peut largement imaginer qu'il rentre en prison avec quasiment aucune chance de ressortir dans un meilleur état que dans lequel il est rentré.
A posteriori, quand il écrit l'autobiographie, donc des années plus tard, comment est-ce qu'il explique cette espèce de glissade vers la délinquance ? Qu'est-ce qu'il blâme ?
En partie la société, pour commencer. Les Blancs. On peut imaginer, encore une fois, que c'est un personnage qui est meurtri, qui est cassé de partout depuis qu'il est né, avec des malheurs incommensurables à gérer. Et qu'effectivement, on lui offre une réponse clé en main, et que comme il est blessé, comme il est touché, et comme il est encore intellectuellement, structurellement, encore un peu fragile, cette réponse-là lui convient parfaitement, et c'est la réponse à tout, et ça lui permet d'éviter l'autocritique aussi, parce qu'il est quand même délinquant lui-même. Mais effectivement, ça va être l'homme blanc qui va être l'excuse à tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est né.
Gilles Kepel, Malcolm X, quand il est en prison, il passe des heures et des heures et des heures à lire tout ce qui lui passe sous la main. Le dictionnaire, des biographies, des essais philosophiques. Et vous dites, Gilles Kepel, dans votre livre, qu'il en tire, je vous cite, « les certitudes inébranlables du néophyte ».
Oui, c'était pas la foi du charbonnier, si vous voulez, mais c'est quelqu'un qui voulait faire des... Il avait bien commencé ses études. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est la réalité ou la légende, où il explique à son enseignant de collège secondaire, enfin, qu'il veut devenir médecin ou ingénieur, je ne sais plus. Et celui-ci lui dit « Non, non, pour un noir, ce serait mieux que tu deviennes charpentier ». Et bon, c'est dans la légende rétrospective, dans l'autobiographie en particulier, qu'il montre comment les Noirs sont contraints à rester dans le ghetto. Et d'une certaine façon, dans la prison, il retrouve sa boulimie d'apprentissage de la jeunesse qui aurait été interrompue par cette orientation néfaste. Et donc là, il se met à tout avaler, si vous voulez. Il lit un peu de tout. Et c'est dans cette espèce de brouillard qu'il rencontre le prédicateur de la Nation Islam qui va lui donner le sentiment de mettre de l'ordre dans tout ce qu'il est en train d'acquérir de manière désordonnée.
Maboula Soumaoro, je vous propose de lire le contenu de cette petite lettre du 29 janvier 1950.
Mm-hmm. Il vaut mieux être emprisonné par le diable pour servir Allah que d'être autorisé par le diable à être en liberté. L'homme noir est un esclave, il est temps de détruire les démons.
Alors là, Maboula Soumaoro, il faut que vous nous expliquiez comment Malcolm X, de petit délinquant, quand il entre en prison en 1946, en vient à, donc là je le cite, hein, vouloir la destruction des Blancs en 1950. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui se passe, c'est qu'il rencontre des membres de la Nation d'Islam en prison. Et le mantra de la Nation d'Islam, c'est toujours de proposer à ses prospects, aux personnes qu'ils essaient de recruter. Enfin, c'est une tradition que de faire du prosélytisme dans les prisons. Pourquoi ? Parce que l'un de ses fondateurs, enfin celui qui s'est avéré être le fondateur qui est resté le plus longtemps, c'est Elijah Mohamed. Et Elijah Mohamed, lui-même, il a fait de la prison. Donc, pour la Nation d'Islam, on va dire la révolte ou la résistance, elle se passe également au niveau spirituel et religieux. Ensuite, après, il y a tout un mythe fondateur qui fait que les Noirs seraient, on va dire, la race la plus aboutie. C'est vraiment du suprémacisme racial. Les Noirs sont la vraie race, la pure race, alors que les Blancs seraient une race de dégénérés. Et on a aussi cette dichotomie entre le bien et le mal, le Dieu et le diable. Et pour la Nation d'Islam, les Blancs sont des diables. Il l'islam pratiqué dès le départ par la Nation d'Islam n'a rien à voir avec les formes d'islam orthodoxe, sunnite ou chiite ou je sais pas, mouride ou n'importe quoi dans le monde. C'est pas du tout ça. La Nation d'Islam, elle veut fabriquer sa petite potion magique pour répondre aux besoins spécifiques. L'islam, ce n'était qu'un prétexte au début. Donc, quand il se retrouve en prison, Malcolm X, c'est que là, pour revenir à cette citation, bah, on voit qu'il a été pris dans ce discours qui permet peut-être de manière simpliste, mais c'est à la fois simpliste, racialiste et concret. C'est-à-dire que la Nation d'Islam, elle est là. Elle est là dans les ghettos, elle est là dans les milieux défavorisés. Elle vous aide à vous sortir de la drogue, des addictions, de la prison. Elle vous accueille, elle vous aide et elle vous accompagnera.
Gilles Kepel, vous êtes politologue, vous êtes spécialisé dans les mondes arabes et musulmans, et vous avez écrit un chapitre de votre livre « À l'ouest d'Allah » qui est sorti en 1994 sur la Nation of Islam. Et il y a une phrase en parlant de la Nation of Islam qui dit la chose suivante: « C'est l'expression inversée, très précise, à la manière d'un négatif photographique, d'un racisme que l'on voit imprégner la société américaine. »
Ce qui était très frappant avec cette Nation of Islam, c'est que elle avait de l'islam le nom, mais c'était un islam qui était vraiment à la sauce américaine et qui avait été adapté à la situation des descendants d'esclaves noirs et qui donc essayait de leur redonner au départ une forme de dignité. Alors bon, il y avait aussi probablement un certain nombre de charlatans qui s'étaient mis là-dedans. Par exemple, pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient à Noël et pas pendant le jeûne du Ramadan? Parce qu'il fallait faire de le contraire de l'abondance des Blancs à Noël. Dans ce qui était interdit, il n'y avait pas seulement le porc, mais il y avait aussi le poisson-chat. Pourquoi le poisson-chat? Parce que c'était ce dont on nourrissait pas cher, les esclaves noirs dans les plantations de coton du Sud. De ce fait, il y avait cette espèce de construction à l'envers de la discrimination. On essayait de faire subir aux Blancs ce que les Blancs vous avaient fait subir. Les Blancs étaient appelés des « blue-eyed devils », des démons aux yeux bleus, etc. C'est devenu une secte qui, finalement, était pas si mal considéré dans certains milieux américains à l'époque, parce que ça avait pour effet de lutter contre l'alcoolisme, contre la prostitution, contre la violence, et de faire que des gens trouvaient, à travers l'ordre que faisait régner la secte, et aussi les ponctions financières qu'elle prenait sur ses adeptes, une sorte de paix sociale dans des ghettos noirs qui avaient atteint un degré de violence et particulièrement terrifiant.
Je lis, j'étudie, parce que la première chose que le noir doit absolument apprendre, c'est le respect de lui-même, le respect de son corps et de son esprit. Cesser de s'empoisonner avec les poisons que lui donnent les Blancs. Les cigarettes et les drogues du blanc, son alcool, ses femmes blanches, son porc.
Le porc?
Le porc est une affreuse bête, moitié rat, moitié chat et un peu de chien. Et je vais te dire, Dieu est noir.
Dieu est noir.
Tout le monde sait que Dieu est blanc. Tout ce que les Blancs te disent, tu l'acceptes. Quand ils te traitent de païen et de nègre, tu les crois. Ils te disent d'adorer un Jésus blond, aux yeux bleus, à la peau blanche, et tu marches comme un seul homme. Ils te disent que c'est une malédiction d'être noir et ça te paraît vrai.
Quand se construit le mythe de la Nation d'Islam, son fondateur, qui est un personnage dont on ne sait pas très bien d'où il venait, qui il était, qui s'appelait Fard, et ensuite son successeur Elijah Muhammad, vous savez que les clichés racistes, c'est que les Africains seraient proches des singes, et eux faisaient au contraire expliquer que c'était les Blancs qui étaient les descendants des singes. Et que il y avait des un diable blanc qui s'était révolté contre les Noirs qui avaient été les découvreurs de l'Égypte, de la civilisation, qui n'avaient été chassés, l'Égypte à la Mecque, enfin tout était un peu mélangé, et ceux qui avaient été chassés étaient partis à quatre pattes en Europe, etc. Donc il y a toute une déconstruction, une reconstruction des clichés et des mythes racistes qui sont mis sur la tête. Les Noirs et les Blancs ne doivent pas vivre ensemble. Il faut créer, au début de la Nation of Islam, ils voulaient créer un territoire pour les Noirs aux États-Unis. Ils ne voulaient pas plus vivre du tout avec les Blancs. Ils voulaient se couper d'eux.
Alors, il y a une dimension raciste, à coup sûr, dans Nation of Islam, quelque chose que Malcolm X, d'ailleurs, a pu dénoncer plus tard, lorsqu'il s'éloigne de Nation of Islam à partir de 1964, un an avant sa mort, une dimension raciste qui... en quelque sorte, retourne comme un gant ou rejoue à l'envers le racisme dont les Noirs étaient victimes, ce qui, évidemment, peut prêter à critique.
C'est ça, c'est que ça pose une vraie question. C'est est-ce qu'il y a un racisme qui vaut mieux qu'un autre ?
Aucun racisme ne vaut mieux qu'un autre. Il faut simplement tenir compte des rapports de force généraux dans la société. Et le racisme que certains Noirs peuvent avoir à l'égard des Blancs aux États-Unis n'équivaut pas à l'inverse, si je puis dire, compte tenu des rapports de force globaux dans cette société. Le racisme des Noirs à l'égard des Blancs n'a pas eu du tout les mêmes effets socio-économiques, c'est le moins qu'on puisse dire, ni la même mise en place institutionnelle, y compris avec des institutions de terreur comme le Klan, que le racisme des Blancs à l'égard des Noirs. C'est même sans comparaison. Mais il y a quelque chose comme un rejeu clownesque et grotesque de ce racisme.
Abdourahmane Mouhamad, historien.
His brother, Reginald.
Son petit frère Reginald, qui avait toujours admiré Malcolm, lui pose une question. Malcolm, qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un qui sait tout ce qu'il y a à savoir dans l'univers?
Et Malcolm processe la question et il
Malcolm réfléchit un moment et il dit : j'imagine que ce serait une sorte de Dieu. Et Reginald répond : exactement. L'honorable Elijah Muhammad nous apprend que l'homme noir, c'est Dieu. Et que parmi les noirs, il y en a un qui est l'être suprême.
Et il is Allah.
C'est Allah.
And we all share in his divinity.
Et on partage tous sa divinité.
And Malcolm thought.
Malcolm réfléchit.
Do you know who the devil is?
Et sais-tu qui est le diable?
The devil is the white man.
Le diable, c'est l'homme blanc.
Pour expliquer toute sa vie précédente, est-ce que vous ne trouvez pas que ces solutions sont quand même extrêmement simplistes ?
Oui. C'était une solution très simpliste à un problème très complexe. Mais c'est pour ça que ce message avait autant de succès. La Nation of Islam n'attirait pas l'intelligentsia noire, les classes supérieures, l'élite éduquée.
Elijah Muhammad used to say that
Elijah Muhammad disait : j'ai été envoyé pour élever mes pauvres frères et sœurs noirs qui sont dans la boue.
The people who joined the Nation of Islam came from the most.
Les gens qui adhéraient à la Nation of Islam venaient de la misère.
Many of them drug addicted.
Beaucoup d'entre eux étaient toxicomanes.
Like, example, Malcolm's family, a family decimated.
Pour beaucoup, c'était comme pour Malcolm, une famille décimée par la maladie mentale d'un parent et par la mort de l'autre. Et c'était la Grande Dépression, qui était un moment atroce de l'histoire américaine. où les gens mouraient littéralement de faim dans la rue. Donc la solution de la Nation of Islam était simple. Mais c'est ce qui la rendait attrayante.
It was very simple. Accept the teachings.
Accepte les enseignements du messager d'Allah, rejoins les tiens, et je t'enverrai au paradis immédiatement, sur cette terre.
Ce n'est
pas une promesse en l'air, ce n'est pas après ta mort. Je t'enverrai au paradis tout de suite, quand tu auras rejoint tes frères et sœurs noirs.
White man's heaven is a black man's hell.
White man's heaven is a black man's hell.
Le paradis de l'homme blanc est l'enfer de l'homme noir.
Before we came to America, we were living in the east by the Nile River, living in luxury, enjoying freedom, justice, and equality. We wore silken robes and slippers of gold. We were the wealthiest and the wisest people, I'm told. Now we are the poorest of the poor. No one wants us at their door. Oh, my friend, it's easy to tell. A white man's heaven is a black man's hell.
Le paradis de l'homme blanc est l'enfer de l'homme noir.
Yeah, that was written by, that song was written by Minister Louis Farrakhan.
Why are we called Negro?
Maboula Soumaoro, vous avez fait votre thèse sur la Nation of Islam. Et j'imagine que vous connaissez du coup l'hymne de la Nation of Islam. Une chanson qui est chantée effectivement par Louis Farrakhan, oui, qui est l'actuel patron de la Nation of Islam. Je vous propose d'en lire les premiers vers simplement que j'ai traduits.
Pourquoi nous appelle-t-on Negroes? Pourquoi sommes-nous sourds, muets et aveugles? Pourquoi tout le monde progresse, tandis que nous semblons être laissés si loin derrière? Pourquoi sommes-nous maltraités? Pourquoi sommes-nous dans cette condition? Dépouillés de notre nom, de notre langue, de notre culture, de notre Dieu et de notre religion. Ici, en Amérique, toute notre éducation religieuse nous a été transmise par le prédicateur. Il nous a parlé d'un paradis, tout là-haut dans le ciel, que nous ne pouvons pas savourer maintenant, mais seulement après notre mort. Mais durant toutes ces années où nous vivons, pour nous, il n'y a rien d'autre que l'enfer, douleur, torture et désillusion. Pourtant, la Bible parle d'un paradis, rempli de richesses matérielles, que l'homme blanc et le prédicateur ont déjà ici sous nos yeux. Alors mon ami, prends cela comme tu voudras, ton paradis et ton enfer sont ici, sur cette terre. Ainsi, mon ami, il n'est pas difficile de le voir, le paradis de l'homme blanc et l'enfer de l'homme noir. Donc Louis Farrakhan, chanteur de Calypso, il est d'origine trinidadienne, Farrakhan.
Eating juniper roots and eating flesh raw, till God sent Moses to civilize him and teach him the law. Then following Marco Polo, an explorer, he gained entry into Asia and Africa. From China, he took silk and gunpowder. From India, he took jute, manganese, and rubber. He raped Africa of her diamonds and her gold. From the Mideast, he took barrels of oil untold. Raping, robbing, and murdering everything in his path, the whole black world has tasted of the white man's wrath. So, my friend, it's not hard to tell. A white man's heaven is a black man's hell.
La nation d'islam, elle s'occupe du ici et maintenant. Et la nation d'islam se veut comme propagatrice du message qui va réveiller tous ces zombies, en fait.
Maboula Soumaoro, dans le dossier du FBI de Malcolm X, y a une lettre qui date du 9 janvier 51. Il est en prison et c'est une lettre qu'il envoie à sa sœur Ella. Et on voit dans cette lettre que sa révélation et son adhésion à la Nation of Islam et sa conversion à l'islam, elle se double d'une remise en question de lui-même.
Tu m'as dit un jour que j'avais un complexe de persécution. J'ai assez naturellement refusé de t'écouter. Les illusions dans lesquelles je me trouvais m'empêchaient de voir combien tu avais raison. J'étais guidée par la haine, par la jalousie et par la soif de revanche, trompée par ma vanité et par mon orgueil. J'étais aveuglée par ma propre ignorance. Dans mes efforts pour justifier tous ces malheurs que je m'infligeais, j'ai blâmé tout le monde, sauf celui qui était vraiment responsable de tous mes problèmes, moi-même. Je vois sourire. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est quand même la prise de conscience de la notion de responsabilité. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi la sincérité de ces conversions. Quelle que soit la manière dont nous apparaît le message de la nation d'islam, soit on s'arrête et on va dire oui, ils sont racistes, antisémites, mais comment peut-on expliquer que autant de personnes aient pu être touchées au point de transformer leur vie de manière radicale? Là, on parle d'un petit délinquant qui était en prison pour des faits de petite délinquance, mais de délinquance quand même, et quelqu'un qui va se dire aujourd'hui, je ne prends plus de drogue, je ne bois plus d'alcool, je ne mange plus de porc, je vais prier 5 fois par jour, je vais faire ceci ou c'est ça. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose qui l'a touché dans ce message, et cette potentialité de transformation et d'avoir peut-être un rôle à jouer dans sa propre vie, plutôt que de subir la superstructure socio-économique et politique des États-Unis. Et je pense que quand il écrit ça, en plus c'est une lettre qu'il adresse à sa sœur, il est sincère. Il parle de son orgueil, il parle de sa vanité, et comme si ça y est, il a vu la lumière et il va se passer quelque chose. Et là, en plus, on le sait rétrospectivement, ce ne sont pas que des mots, il y a eu des actes derrière. Il est devenu le Malcolm X qu'on connaît.
Malcolm X, The Ballot or the Bullet, discours du 12 avril 1964.
Quand on regarde autour de nous, on ne voit pas l'Amérique avec les yeux de ceux qui ont profité de l'américanisme. Nous voyons l'Amérique avec les yeux de la victime de l'américanisme. Nous ne voyons pas de rêve américain. Nous n'avons vécu que le cauchemar américain. Nous n'avons rien reçu de la démocratie américaine. Nous n'avons fait que souffrir de l'hypocrisie américaine. Et la génération qui arrive le voit et n'a pas peur de le dire. Si vous allez en prison, qu'est-ce que cela peut faire? Si vous êtes noir, vous êtes né en prison.
L'âge des fausses notes. Avec Pap Ndiaye, Sylvie Laurent, Jonathan Demey, Hicham Haïdi, Maboula Soumaoro, Gilles Kepel et Abdourahman Mouhamad. Malcolm X est interprété par Biran Ba. L'autobiographie est traduite par Anne Guérin, Gaël Diffère et Marie Herman et parue aux éditions Hors d'atteinte. Vous avez entendu les voix de Prudence Castelot, Pauline Ziadé, enregistrées par Nadège Antonini et Claire Levasseur. Vous avez également entendu des extraits du film Malcolm X de Spike Lee. Merci à Denis Lacorne. Responsable éditorial Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, Malcolm X Colère Noire, Une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.
C'est en prison que j'ai décidé de passer le reste de ma vie à dire à l'homme blanc ce qu'il est vraiment, ou de mourir.